Je vous invite, avant d'écouter ce que Dieu a à nous dire, je vous invite à la prière. Merci Seigneur, parce que fidèlement, d'âge en âge, tu nous as enseigné. Tu nous as donné la Bible, ta parole, où nous pouvons trouver ce que tu as à nous dire. Et nous voulons te louer pour ça. Seigneur, je veux te prier que derrière ce que je vais dire ce matin, chacun ici puisse entendre ce que tu as à dire, que derrière les maladresses, ta parole apparaisse. Dispose nos cœurs, Seigneur, à t'écouter. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. La semaine dernière, Samuel, qui prêchait ici, nous rappelait le mot d'ordre que nous nous sommes donné pour cette année. Mon prochain m'apporte, agissons ensemble. Cette semaine, c'est le mot d'ordre de l'année prochaine que je vais vous rappeler. Je crise, tu crises, il crise, nous croyons. Ce mot d'ordre, c'est celui de la campagne nationale d'évangélisation à laquelle nous propose de nous joindre notre fédération d'Église l'année prochaine, en 2010. Pour préparer cette campagne, il nous est demandé de lire plusieurs textes qui inspireront notre réflexion autour de l'évangélisation, des besoins de notre prochain, mais aussi de la crise que nous voulons ne pas craindre en Jésus. Parmi ces textes, nous avons lu il y a 3 semaines l'essentiel du livre de Néhémie. Et je vous propose ce matin de survoler ce livre à la recherche de quelques leçons à appliquer dans notre préoccupation, celle de toucher le monde qui nous entoure. Et pour introduire notre réflexion, je vous propose de lire le chapitre 3 du livre de Néhémie, ou plutôt d'écouter la lecture qui va en être faite. Donc Néhémie, chapitre 3, mais écoutez cette lecture.
Eliashib, le grand prêtre, se mit au travail avec ses collègues, les prêtres, et ils se chargèrent de la reconstruction de la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants, puis ils continuèrent à réparer la muraille, qu'ils consacrèrent, jusqu'à la tour de Méa, puis jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'eux travaillaient les habitants de Jéricho. À leur suite, c'était Zaccour, fils d'Imri, qui bâtissait. Les descendants de Sénaa reconstruisirent la porte des poissons. Ils en firent la charpente et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, Méremoth, fils d'Uri, petit-fils d'Akots, travaillait. À sa suite, c'était Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshézabéel. Et plus loin, Tsadok, fils de Baana. Venaient ensuite les habitants de Tekoa, mais leurs notables refusèrent de travailler sous les ordres des maîtres d'œuvre. Yoyada, fils de Pasea, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils en firent la charpente et posèrent les battants, les verrous et les barres.
À côté d'eux travaillaient Mélatia, le Gabaonite, Yadon, le Méronotite et les gens de Gabaon et de Mitzpah, qui relevaient de la juridiction du gouvernement de la province à l'ouest de l'Euphrate. À côté d'eux travaillait l'orfèvre Uziel, fils de Haraya, et à côté de lui Anania le parfumeur. Ils restaurèrent Jérusalem jusqu'à l'endroit où la muraille s'élargit. À côté d'eux travaillait Réphaïa, fils de Our, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux, Yédala, fils de Harumaph, travaillait à la section située en face de sa maison. Et à sa suite venait Hattouch, fils de Hachabnia. Un second secteur de la muraille ainsi que la tour de four furent réparés par Malkia, fils de Harim, et par Hachoub, fils de Parat-Moab.
À côté d'eux travaillait Shalloum, fils de Haloesh, chef de l'autre moitié du district de Jérusalem, assisté de ses filles. Hanoun et les habitants de Zanoa réparèrent la porte de la vallée. Ils la reconstruisirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. De plus, ils restaurèrent la muraille sur 500 mètres, jusqu'à la porte du fumier. C'est Malkia, fils de Rekab, chef du district de Beth-Akerem, qui répara la porte du fumier. Il la rebâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Shalloum, fils de Kol-Ozé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Après l'avoir reconstruite, il la couvrit d'un toit et bâtit et fixa les battants, les verrous et les barres. De plus, il releva la muraille de l'étang de l'aqueduc, près du jardin du roi, jusqu'aux marches qui descendent de la cité de David.
Au-delà, Néhémie, fils d'Azbouk, chef de la moitié du district de Betzour, travaillait dans le secteur qui s'étendait jusqu'en face du cimetière de David et allait jusqu'au réservoir artificiel et jusqu'à la caserne. Au-delà, travaillaient des Lévites, Réhoum, fils de Bani, puis à côté de lui, Hachabia, chef de la moitié du district de Keïla. Au-delà, travaillaient leurs collègues Bavaï, fils de Hénadad, chef de la moitié du district de Keïla, et à sa suite, Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, réparait un second secteur situé en face de la montée de l'arsenal, à l'endroit où la muraille fait saillie.
Au-delà, Baruch, fils de Zabaï, réparait avec ardeur une autre section depuis l'angle jusqu'à l'entrée de la maison d'Éliashib, le grand prêtre. Au-delà, Mérémoth, fils d'Uri et petit-fils d'Akots, réparait un autre secteur depuis l'entrée de la maison d'Éliashib jusqu'à son extrémité. Au-delà, travaillaient les prêtres qui habitaient les plaines environnantes. Au-delà, Benjamin et Hachoub réparaient la muraille en face de leur maison. À côté d'eux, Azaria, fils de Maaseia et petit-fils d'Anania, travaillait à côté de sa maison. Au-delà, Binoui, fils de Hénadad, renforçait un autre secteur allant de la maison d'Azaria jusqu'à l'angle en saillie de la muraille.
Puis c'était Palal, fils d'Ouzaï, qui travaillait devant la saillie de la tour supérieure qui domine le palais royal et touche à la cour de la prison et au-delà Pédaïa, fils de Péréoche. Les desservants du temple s'étaient établis sur la colline de l'Ophel, jusqu'à la face de la porte des eaux à l'est et de la tour en saillie. Les gens de Tekoa travaillaient à la section suivante, depuis la grande tour en saillie jusqu'à la muraille de la colline d'Ophel. À partir de la porte des chevaux, les prêtres travaillaient chacun en face de sa maison. Au-delà, Tsadok, fils d'Imer, réparait devant sa maison et ensuite Shemaïa, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient, Anania, fils de Shelemia, et Hanoun, le sixième fils de Tsalaf, réparèrent le secteur suivant et au-delà Meshulam, fils de Bérékia, travaillait en face de sa demeure.
Puis Malkia, de la corporation des orfèvres, travaillait jusqu'aux maisons des desservants du temple et des marchands vis-à-vis de la porte de la surveillance et jusqu'au poste de guet, situé en haut de l'angle de la muraille. Les orfèvres et les marchands réparèrent la muraille entre ce poste de l'angle et la porte des brebis.
Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut très mécontent et se mit en colère. Il se moqua des Juifs en disant devant ses compatriotes et devant l'armée de Samarie, « Qu'est-ce que ces minables Juifs veulent donc faire ? S'imaginent-ils qu'on va les laisser agir et qu'en offrant des sacrifices à leur Dieu, ils viendront maintenant à bout d'une telle entreprise ? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et calcinées ?» Tobia, l'ammonite, qui se tenait à ses côtés, ajouta « Ils n'ont qu'à bâtir. Si un renard s'élance contre leur muraille de pierre, il les brisera. »
« Écoute, ô notre Dieu, écoute comme on nous méprise. Fais retomber sur eux l'humiliation qu'ils nous infligent et livre-les au pillage sur une terre d'exil. Ne pardonne pas leurs fautes et n'efface pas leurs péchés, car ils ont offensé ceux qui rebâtissent les remparts. Cependant, nous avons continué à bâtir la muraille et sur tout le pourtour, elle fut réparée jusqu'à mi-hauteur, car chacun avait pris ce travail à cœur.
Merci pour cette lecture. J'aime ce texte, même s'il a l'air un peu indigeste comme ces énumérations qu'on trouve dans l'Ancien Testament. J'aime ce texte parce qu'il est réel. On y voit la sueur de ceux qui ont travaillé, de ceux qui ont agi ensemble à ce moment-là. Le livre de Néhémie rapporte les événements qui se sont passés à Jérusalem suite au retour d'exil du peuple d'Israël. Sans doute cela mérite-t-il que nous prenions quelques instants pour faire quelques rappels historiques. Vous savez que, à la demande de son peuple, Dieu a instauré la royauté sur Israël. Après un premier roi peu brillant, Saül, David a été un modèle de roi, à tel point qu'il annonce le Messie à venir. La royauté sur Israël est alors pleine de promesses. Mais cela ne dure pas. Après David vient Salomon, dont le règne commence de façon glorieuse et dont la fin est plus trouble. Il est suivi par Roboam, et dès l'accession de celui-ci au pouvoir, Israël se divise. Tribus du nord d'un côté, tribus de Juda et de Benjamin de l'autre. Les rois s'enchaînent ensuite, généralement plus mauvais les uns que les autres, jusqu'à épuiser la patience de l'Éternel. Et Dieu punit finalement son peuple par la chute de Jérusalem et la déportation à Babylone. L'envahisseur babylonien est à son tour défait, et ce sont les Perses qui héritent de la domination sur les peuples soumis à Babylone, et donc sur Israël. Sans doute pour bénéficier de la loyauté des peuples soumis, l'empereur perse autorise et encourage le retour des peuples déportés vers leur pays d'origine. Et c'est ainsi que les Israélites commencent à revenir à Jérusalem. Le récit de ce retour nous est rapporté dans deux livres Esdras et Néhémie. Esdras était un lévite, un prêtre, interprète de la loi, il était chargé de l'expliquer au peuple. Et signe de la politique d'ouverture des Perses, c'est l'empereur qui envoie Esdras à Jérusalem pour s'assurer que les Israélites suivent convenablement la loi de Dieu. Néhémie, lui, arrive quelques années plus tard à Jérusalem. Je trouve dans le livre de Néhémie un certain écho à notre époque. C'est un livre très personnel. On y trouve des passages où Néhémie parle à la première personne. Des passages où il partage directement avec le lecteur ses motivations, ses sentiments de joie ou de tristesse. Ce livre nous parle aussi parce qu'il raconte l'histoire d'un homme assez ordinaire. Il ne s'agit pas d'un prêtre, de quelqu'un qui a été consacré pour le service de Dieu. C'est un fonctionnaire auprès de l'empereur. C'est un personnage attachant. Il écoute ses sentiments. Il a une grande spiritualité. Il est proche de Dieu et veut lui rendre gloire. Et quand il pense que l'honneur de Dieu est bafoué, il réagit au quart de tour. Il devient alors volontaire. Il prend les choses en main pour les faire changer. C'est un leader capable de faire partager sa vision, mais aussi capable d'agir pour montrer l'exemple. Ce personnage attire de la sympathie. Et de plus, la situation dans laquelle il se trouve n'est peut-être pas si éloignée de la nôtre, ce qui peut rendre son récit actuel. Tout part d'une constatation faite par Néhémie. En interrogeant un parent de retour d'Israël, il se rend compte de la situation humiliante dans laquelle se trouve le peuple. Chapitre 1, verset 3. On rapporte à Néhémie, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et les portes ont été détruites par le feu. Le peuple à Jérusalem vit au milieu des ruines. La ville n'a plus de portes et la muraille est un véritable gruyère. Est-ce grave? Après tout, si tous les habitants ont une maison pour s'y abriter, n'est-ce pas là l'essentiel? Pour Néhémie, en tout cas, la situation est catastrophique. Ce n'est pas qu'il regrette de voir la ville dépouillée de ses défenses militaires. Néhémie sait très bien qu'actuellement, Israël n'est pas souverain. Il est soumis aux Perses. Néhémie est lui-même fonctionnaire auprès de l'empereur Artaxerxès. Et c'est à l'empereur qu'il va demander la permission de reconstruire la muraille. Il ne cherche donc pas à réarmer Jérusalem. Mais la muraille, c'est un peu la vitrine de la ville, celle qui en donne l'image. C'est la première chose qu'on voit quand on approche de la ville. C'est le bien commun de tous ses habitants. Si les murailles sont en ruine, alors la ville est en ruine. Et le problème, c'est que Jérusalem n'est pas n'importe quelle ville. C'est celle qu'on appelle la cité de Dieu, la ville de justice, la ville sainte. La Bible nous dit quelle est la ville que l'Éternel avait choisie. Choisie parmi toutes les tribus d'Israël pour y établir sa présence. Jérusalem, c'est la ville de Dieu. C'est pourquoi Néhémie ne supporte pas de savoir cette ville dans un tel état. Et il veut agir pour rétablir l'honneur de Dieu. Et nous ? Sommes-nous aujourd'hui interpellés de la même façon ? Dans quel état se trouve notre Jérusalem ? Je ne parle pas de Jérusalem, la capitale de l'État d'Israël. Je parle de la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem d'en haut, celle dont Paul dit qu'elle est notre mère. Je parle du lieu destiné au peuple de Dieu, le peuple de Dieu d'aujourd'hui dont nous faisons partie. Cette cité, dans quel état la mettons-nous ? Est-elle belle et glorieuse ? Ou n'y a-t-il pas un peu de laisser-aller dans notre comportement, des choses à y redire et qui l'abîment ? Il y a, nous le savons, dans l'histoire de l'Église, des choses